Merci d'écouter Radio Bonheur. Bonne fin de journée sous le soleil en Bretagne. Aujourd'hui, 19h08, c'est le magazine des déchaînés du football en direct jusqu'à 20h30. Nous allons parler de la 34e journée du championnat de Ligue 1 et 35e journée du championnat de Ligue 2 ce soir. Nous allons parler aussi des clubs amateurs qui ont évolué ce week-end, un week-end mitigé. On va y venir dans quelques instants avec les déchaînés du football, avec Gaëtan Pinel qui est avec nous ce soir en direct en studio. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Pierre-Henri Dufay est aussi avec nous avec ses cheveux longs.
Oui, bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous.
Ce qui n'est pas le cas de Gaëtan.
Non, non. Je ne sais pas si ça vous irait, vous. Je ne sais pas si ça me va, mais vous, non. Ça vous
irait. Je ne vais pas tenter.
Non.
Bon, un week-end mitigé, je disais, avec une victoire, un nul, une défaite, 4 buts marqués, 8 buts encaissés. Ah, on en a pris quand même plus dans la musette qu'on en a mis.
Surtout à cause d'un, dont on ne citera pas le nom.
Aïe, aïe. On va y venir,
pas
mais bon.
De cheveux.
C'est vrai que c'était très difficile ce week-end pour les Merlus dans le derby à Rennes qui se sont lourdement inclinés, hein, on va y revenir tout à l'heure, 5-0. Un bon match nul pour les Guingampais, hein, qui étaient menés 3-0 à la pause, donc finir à 3-3, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Bon résultat pour les Guingampais. Et pour Brest, on a fait le minimum, mais on a quand même les 3 points, on a la victoire, 1-0, victoire contre les Messins. Il fallait au moins ça pour Brest.
Deux victoires en 4 jours, hein, pour les Brest. Parce qu'on avait joué en milieu de semaine aussi.
Ouais.
Là, tous nos clubs avaient gagné d'ailleurs. Guingamp, Lorient et Brest.
Et puis c'était à Metz. Donc voilà.
C'était à Metz.
C'est aussi une victoire à l'extérieur. Donc c'est pas mal pour les Brestois qui continuent leur progression. Les Brestois définitivement sauvés, comme les Guingampais d'ailleurs dans les championnats que nous suivons. Il n'y a que les Merlus où on n'est pas encore certain du maintien.
Ah non, 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 ça sans doute jusqu'au bout. On y viendra évidemment tout à l'heure. Après donc, le Stade Brestois qui avait quasiment validé son maintien contre Lyon. C'est officiel depuis hier, et la victoire à Metz.
Oui, une victoire qui s'est dessinée surtout en première période sous la pulsion d'un homme, Youssef Belaïli. On réécoute tout de suite ce qu'il s'est passé hier après-midi à Metz.
Ça va venir.
Ça arrive.
Ça arrive. Le résumé de ce match entre Metz et Brest.
Jean-Kévin Duverne qui vient percer, qui réussit le grand pont sur le côté de la surface. Duverne qui va centrer en retrait. Belaïli, c'est contré. Mounier qui n'a pas pu reprendre. Quelle occasion pour Youssef Belaïli à deux doigts de son premier but brestois. Voilà, il y a, oh là là, Belaïli qui va plus vite que Mbeng dans la surface de réparation. Belaïli en bonne position. Belaïli une fois, deux fois, deuxième crochet. Belaïli pour la frappe. À côté. Quelle occasion pour Youssef Belaïli, lancé en profondeur tout seul. Le dégagement de Brendan Chardonnay, 26 minutes 0-0 entre Metz et Brest, et la bonne déviation de Mounier pour Cardona, centre de Cardona, Belaïli, ça y est, le premier but de Youssef Belaïli qui s'enlève la poisse sur le maillot, le Fennec qui vient enfin marquer son premier but avec les Finistériens sur sa troisième occasion du match. Brest mène 1-0, superbe service de Cardona après une déviation dans la tête de Mounier, le trio offensif qui fait mouche et Belaïli qui permet à Brest de mener 1-0.
Voilà une bonne chose, ouverture du score.
Attention à ce centre de Belaïli, Mounier tout seul. Quel arrêt d'Oukidja qui a fermé au premier poteau sur cet excellent centre de Belaïli. Mounier abandonné par la défense messine qui a smatché sa tête dans les pieds d'Oukidja. Malheureusement, énorme occasion de break. L'apathie messine aujourd'hui. Lamkelzé dans la surface de réparation. Oh, Duverne qui a été embarqué. Centre de Lamkelzé, second poteau. Tête de Pajot. Sur la barre. Alors Chardonnay était quand même juste en dessous pour sauver le ballon au cas où celui-ci était cadré. Mais voilà, la plus belle occasion de Metz. De Saïd pour Satriano qui est dos au but, qui essaye de se retourner. Ouais, petit ballon dans le dos pour Cardona. Allez, Irvine. Ah, la faute. Ah, Monsieur Bata, bah évidemment, ça va être carton rouge ça. C'est coup franc pour Brest. Et deuxième jaune pour Jemerson. Non, même pas, c'est rouge direct. Rouge direct pour Jemerson, mais évidemment. Alors que Satriano a... Oh là, oh là, et attention là, il y a un Messin qui a dégoupillé là. Je crois que c'est Oukidja qui a poussé Cardona. Ils sont en train de complètement perdre les pédales. Enfin, pour les... Oh, rouge pour Oukidja. Rouge pour Oukidja, ben ouais, il a poussé, c'est bien ce que j'avais vu. Il a poussé à Goumé. C'est terminé. Brest s'impose dans cette ambiance glaciale à Metz. Brest qui a fait la différence sur une belle première période grâce à un excellent Youssef Belaïli, auteur de son premier but en Ligue 1. Une première période réjouissante, une seconde décevante. Des Brestois, on va y venir dans.
Surtout qu'il y a eu un carton rouge pour Metz. Donc
deux
cartons rouges. Oui, c'est vrai, ils ont fini à 9, les Messins.
Ouais, bon, c'était dans les 10 dernières minutes, mais c'est vrai qu'on. Et la principale frayeur à 11 contre 9, c'est Metz qui, quasiment 2 minutes après les rouges,
ils ont failli égaliser. Ouais.
Un but refusé pour un hors-jeu très limite hein, sur un coup franc, but de Kouyaté. Bon, c'est passé pour Brest, il y avait quand même un niveau d'écart hein, entre les deux équipes. Metz qui s'est effondré, qui n'a jamais donné la sensation, le sentiment de pouvoir exister, alors que pourtant Gaëtan, vous les aviez suivis au moustoir contre Lorient et on avait vu une équipe qui vivait, qui se sentait vivante dans ce championnat.
Ouais, 4 jours plus tôt hein, c'était pas non plus il y a 3 mois et Metz aurait mérité non seulement de ramener au moins un point, mais peut-être même la victoire Lorient.
Juste sur le fil, la victoire des Merlus.
À la 94e, un mercredi dernier, un but de Ouattara, mais Metz qui avait eu un but refusé aussi d'ailleurs pour un hors-jeu, pour une faute. Mais là, on ne peut plus logique en première période. Il y avait eu plusieurs grosses occasions en première mi-temps, une domination plutôt globale. Ça s'était un peu équilibré au retour des vestiaires, mais à la mi-temps, entre journalistes, on était tous d'accord pour dire que Metz méritait de mener 2-0 à la pause, quoi. Il n'y aurait pas eu scandale, loin de là. N'avait pas réussi à marquer, et bon, c'est aussi le mal, on le dit souvent, des équipes du bas de tableau où rien ne tourne hein, en leur faveur. Ça s'est encore vu hier avec ces deux expulsions, avec cette égalisation qui est refusée pour quelques millimètres. Voilà, il n'y a rien qui fonctionne. Et pour Metz, c'est.
Tant mieux pour Brest, hein, on supporte davantage évidemment les Brestois que les Messins, donc on est bien content de ce qui s'est passé hier à Metz. Mais c'est toujours triste quand une équipe descend, parce que là, c'est ce qui va se passer, messieurs Brest.
Mais bon, ils seront champions de France.
Enterrer quasiment la Metz.
15 points d'avance l'année prochaine.
Non, mais c'est vrai qu'il faut faire preuve d'humilité parce que Brest et même Lorient hein, sont des équipes des clubs du même niveau. Moi, c'est ce que j'appelle la Ligue 1 et demi entre la 10e et la 30e place dans le foot français. Ce sont des clubs qui sont dans le top 10 en Ligue 2 et dans les 10 derniers de Ligue 1 à chaque fois. Et c'est vrai que c'est toujours des ambiances un peu pesantes. Hier, on a ressenti ça à Metz. À l'extérieur du stade, ça allait, mais dès qu'on a franchi les portes du stade, on a senti une lourdeur au-dessus du stade. Les joueurs n'ont jamais donné le sentiment vraiment c'est de vouloir exister dans ce match.
Pas facile avec cette ambiance aussi.
Et en tribune, ça a été frondeur. Ouais. Voilà, c'était terrible. Mais bon, c'était pas le problème des Brestois qui, eux, étaient sauvés officieusement depuis la victoire mercredi contre Lyon. Et du coup, Der Zakarian l'avait annoncé, ce match allait servir à relancer bon nombre de joueurs. 7 changements dans le 11 de départ entre mercredi et dimanche. Et on n'a pas vu beaucoup de différence au coup d'envoi pour l'équipe. L'équipe de Michel Der Zakarian qui justifiait ses choix hier après le match.
Non, c'est ce que je leur ai dit avant le match. Ce que j'attendais d'eux, c'est d'être performant. Parce que les joueurs, ils se peignent tout le temps quand ils sont sur le banc. Et quand on les met sur le terrain, il faut montrer qu'ils ont le niveau pour jouer en Ligue 1 et être performant. C'est ce qu'ils ont bien fait ce soir.
Oui, ça a été bien fait, surtout en première période. Parfois, quand on change autant de joueurs comme ça, il y a un temps d'adaptation et c'est plutôt la première période qui est ratée. Là, ça a été l'inverse pour les Brestois. 7 changements. Hein. Alors bon, RL est revenu en défense centrale après une suspension, ça c'était plus ou moins attendu. Mais Yoronen, sur le côté gauche, il n'a pas beaucoup débuté cette saison. Le trio dans le 4-3-3, Magnetti, Mbok, Agoumé, à part peut-être en match de préparation, on l'a jamais vu en Ligue 1.
Il n'avait pas été titulaire depuis la 10e journée contre Reims. C'était au mois de début octobre du coup. Il avait fait des bouts de match. Il avait été peut-être titulaire en coupe, mais pas du tout en championnat. Donc ouais, c'était un vrai retour pour lui.
Et puis Cardona qui était relancé, titulaire. Il avait été titulaire une seule fois en 6 mois quasiment, Cardona. Belaïli qui n'avait plus débuté aussi depuis un moment. Voilà, ces choix qui ont été validés parce que l'effectif se sent concerné depuis plusieurs mois maintenant, depuis ce fameux début de saison compliqué où tout le monde s'est parlé. Tout cela nous est expliqué par un des joueurs qui a bénéficié de ce turnover hier, le milieu de terrain Hugo Magnetti.
On est toujours prêt, on est toujours prêt à être titulaire. Toute la semaine on travaille pour ça. Le coach avait aussi un peu prévenu en amont, donc on se tient prêt, on sait qu'on va jouer, donc on se prépare tranquillement. Oui, ça montre que tout le groupe est concentré, tout le groupe est concerné par le même objectif. Et on voit qu'on a les 3 points. On voit qu'on a les 3 points ce soir, donc on montre au coach qu'on a envie aussi d'être là.
Voilà, et bien on va découvrir maintenant les choix de Der Zakarian pour la réception de Clermont. Est-ce qu'il va faire confiance à des habituels titulaires? On peut penser à Belkebla, notamment au milieu de terrain, à Honora, bon, qui était blessé hier. À voir ce qu'il se passe dans la suite de la saison brestoise. Il leur reste 4 matchs pour ça. Et pour cette fin de saison, Brest va peut-être enfin pouvoir compter sur un Youssef Belaïli au niveau attendu. C'est vrai qu'il a eu des débuts compliqués. On y reviendra notamment dans la rubrique de demain. Vous entendrez Der Zakarian au sujet de l'Algérien qui s'est exprimé aussi à notre micro hier. Vous l'entendrez dans la rubrique de demain. Là, on va entendre Brendan Chardonnay par rapport à Youssef Belaïli et on en parle juste après, Gaëtan.
L'intégration a été bonne, même si bon, il est parti en sélection de 3 fois, mais l'intégration a été très bonne. Aujourd'hui il a fait un très bon match. On voit sur le but, il se projette, c'est bien, et on voit même, bon, après on sait que de toute façon techniquement c'est un très bon joueur, et en plus là il a fait les efforts, il est revenu défendre, il adresse un super centre à Steve aussi qui doit la mettre. Déjà il connaît pas le niveau de l'Europe. Quand même, s'il est venu à Angers, mais si j'ai bien compris, ça s'est pas très bien passé, mais il connaît pas le niveau de l'Europe, donc il faut qu'il s'acclimate, même déjà la vie personnelle déjà en Europe, et puis voilà, on en attend beaucoup de lui aussi. Il y a eu un buzz incroyable autour de lui, donc voilà, il y a beaucoup d'attentes, donc il a eu un peu de mal, mais maintenant voilà, s'il répète ce genre de match, c'est tout bénéfique pour lui d'abord, parce que c'est sa carrière à lui, et pour le club ensuite, parce que s'il nous fait gagner, s'il nous fait marquer. C'est très bien pour tout le monde qu'il arrive comme ça.
À confirmer quand même, hein, Belaïli.
Oui, parce que on avait des doutes déjà dès le départ, parce que c'est un joueur qui n'a jamais joué en Europe. Il a 29 ans, donc ça, 30 ans même depuis le 14 mars. Donc bon, il y a quelques doutes. Les débuts, les 2-3 premiers matchs avaient été assez intéressants.
Ouais, on se souvient du match contre 3 où il fait une belle passe décisive, mais. Ah, très vite, ça c'est le soufflet est un peu retombé. Hein. Alors, c'est un peu le problème aussi des joueurs dont on attend beaucoup. On met la barre très haut, on s'attend toujours à plus. Et quand un joueur comme lui, de 30 ans, qui découvre le championnat, débarque, forcément, on peut pas avoir des résultats tout de suite, ou en tout cas pas les prestations exigées, attendues. Bon, ça a mis un peu de temps. Pour l'instant, moi, j'ai vraiment pas été impressionné par Belaïli. Même plutôt déçu sur certains matchs. Après, hier, en revanche, il a sans doute fait, je sais pas si c'est la meilleure, mais pas loin prestation depuis qu'il a signé à Brest.
Et ben, on lui a posé la question. Vous l'entendrez demain, Gaëtan. Soyez précis et présent à 8h38 sur Radio Bonheur dans la région brestoise. Faudra avancer un peu en voiture.
Il y aura internet pour.
Voilà, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, hier. Il touche le poteau, il marque, et si Mounier est plus efficace, il fait passe décisive. Donc ça a été lui à l'origine de toutes les actions en première période. C'est bon signe pour cette fin de saison des Brestois. Première pause dans ce magazine et on revient sur cette victoire de Brest à Metz hier.
BMW. Le plaisir de voyager dans une voiture plus durable, de gérer sa recharge avec MyBMW App, de bénéficier d'un an de recharge Unity illimité. Et si le plaisir de conduire n'était pas le seul plaisir d'une BMW 100% électrique, découvrez la BMW iX3 dès 495€ par mois.
Exemple pour une BMW iX3, premier loyer majoré de 5 800€, bonus écologique de 2 000€ déduit. Offre LLD 36 mois, 30 000 km réservés aux particuliers si accord par BMW Finance. Offre de recharge de BMW France et de financement valable jusqu'au 30 juin 2022. Conditions sur BMW.fr. Pensez à covoiturer. Aldi.
Dans la vie, on n'a pas tous cette copine qui nous dit
« Bah, je m'en séparerai jamais ».
Car la cafetière programmable satisfait ou remboursée pendant 2 mois est en ce moment chez Aldi à 39,99€. Oui, ce petit « Bah, je m'en séparerai jamais » qui vous permettrait de vous programmer des réveils plus ou moins corsés. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
39,99€ la cafetière, dont 24 centimes de contribution recyclage, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr.
Et il l'a mis comment le but ?
Non mais laisse tomber ! Le gars récupère la balle et là, bam, huche, 4 gars dans le vent. Après, bim, il la reprend et là, hop, tac, tac, retac, truc de fou, accélération, bam, tac, bim. Et là, boum, il la met au fond.
Parce qu'il y a des actions impossibles à décrire.
Vivez le grand spectacle des demi-finales de l'UEFA Champions League avec Manchester City et Real Madrid demain à 21h sur Canal+, et Liverpool-Villarreal mercredi à 21h sur Canal+ Sport. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
À La Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Sonia, sociétaire à La Massif.
Quand on a eu des dégâts dans notre maison, La Massif a toujours été là et elle continue de l'être.
C'est notre rôle d'être là pour protéger votre toit, Sonia. Grâce à nos solutions habitation, assurez votre logement en toute sérénité. Profitez aussi de nos offres pour vos projets d'aménagement et de rénovation. La Massif, c'est vous. Sous conditions. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.
L'été arrive. Il est temps de reprendre votre routine d'entraînement. Retrouvez le rythme avec Basic Fit. Entraînez-vous où et quand vous voulez, à partir de 19,99€ par 4 semaines. Basic Fit, go for it! Lancez-vous! Conditions sur basic-fit.fr.
Pendant ce temps, en Blablacar.
Attends, donc toi t'as 25 ans et t'écoutes des vinyles?
Bah ouais, pas toi.
Ah, moi je stream, mon pote, je suis un dingue de playlist. Tu vois ce que c'est une playlist?
Parce
que
là on va... Entre Metz et Narbonne, Patrick, conducteur Blablacar, va rester branché et limiter un peu le CO2. S'il pensait juste récupérer 70€, c'est raté. Et pour votre premier trajet, recevez jusqu'à 40€ d'essence. Des frais en moins et bien plus que ça.
Blablacar, Blablacar.
Récupérez jusqu'à 70€ pour 2 passagers. Recevez 25€ de carte essence avec Blablacar et 15€ d'essence avec Blablacar Daily. Conditions sur blablacar.fr et blablacardaily.com.
Chute de cheveux, manque de volume, cheveux fragilisés? Adopté par 9 femmes sur 10 l'ayant essayé, Mana et Cap Expert associent levure de bière, kératine et collagène pour la beauté et la santé de vos cheveux. Retrouvez Mana et Cap Expert en pharmacie. Manae, une marque VitaVea. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Je suis un véhicule chouchouté. Mon propriétaire choisit toujours le meilleur pour moi. Pour mon entretien, il tape idgarage.com. Idgarage.com sélectionne les meilleurs garages et compare les devis. Comme il réserve en ligne, pas de mauvaise surprise. Et moi, je reste en forme toute l'année.
Idgarage.com.
Comparer, réserver en toute confiance.
Écoutez Allison, aide à domicile chez O2.
O2, des métiers pour celles et ceux qui aiment aider. O2, c'est sans hésitation pour vivre dans de bonnes conditions. Et planning adapté pour profiter de ma vie privée. C'est encore plus rassurant pour moi, ma vie et mes enfants. Autour de moi sont les missions, elles s'enchaînent une à une. O2, c'est près de ma maison, j'ai l'esprit léger comme une plume.
On est plus heureux quand on est chez O2. Ménage, aide aux seniors, garde d'enfants. Rendez-vous sur o2recrute.fr. O2.
Merci d'écouter Radio Bonheur, le magazine des déchaînés du football, 19h26. Brest a gagné en déplacement à Metz ce week-end.
Oui, une victoire 1-0 qui s'est dessinée en première période. C'était très logique que Brest mène 1-0 à la mi-temps. Ils auraient même pu marquer un deuxième but, les Brestois, avant la pause. Mais en seconde période, c'était un peu moins bon. On a été même un peu refroidi en tout début de seconde période avec la barre transversale touchée par Vincent Pajot. Alors que s'est-il passé pour que Brest soit un peu moins bon? Voici l'explication de Michel Derzakarian.
Non, mais parce que Metz a élevé un peu le ton. Il a changé des joueurs. Santos a fait une entrée bien meilleur que le jeune arrière droit et puis Delaine, il s'est réveillé aussi un peu, ils ont bien animé les couloirs.
Ouais, Delaine qui était à 2 doigts d'égaliser en milieu de seconde période sur un exploit individuel où son tir croisé était passé juste au ras du poteau du but de Marco Bizot, finalement pas trop inquiété hier à Saint-Symphorien. Brest qui gagne donc une place dans le classement de Ligue 1, qui est 11e maintenant, qui a doublé Montpellier battu à Lyon samedi. Hélas pour eux, Nantes a profité de l'âme charitable des Girondins de Bordeaux qui donne 5 buts à tout le monde en ce moment, et Nantes donc qui s'est joliment imposé 5-3 hier à la Beaujoire. Nantes qui compte donc toujours 5 points d'avance sur Brest. Voilà, c'est ça le petit problème. Le top 10 est jouable, mais un peu loin. Il reste 12 points à prendre, il y a 5 points. Et voilà, pourquoi pas finir en tête là, de ce classement, de la deuxième partie de tableau. Il y a 3 points d'avance sur Montpellier et 5 sur Reims. Quelles sont les perspectives pour la fin de saison ? Réponse du capitaine Brendan Chardonnay.
On va jouer pour gagner de toute façon, même si voilà, c'est ce qu'on a dit aux joueurs aujourd'hui. À l'entraînement, oui, on va être un peu plus relâche, on va jouer. Le coach, on l'a vu, il va laisser un peu plus libre. Mais le match, c'est le match, c'est la compète. Et la compète, on n'a pas le droit de tricher, on n'a pas le droit d'être trop light. C'est pas possible. On doit gagner des matchs encore pour notre public déjà, parce qu'on a trois matchs à domicile. Donc, et puis voilà, pour la fierté personnelle, on a envie de faire des beaux matchs, que, déjà pour nous, pour la visibilité, pour tout le monde. Enfin voilà, ceux qui ont des dépensés ailleurs, ceux qui... Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit il faut vraiment continuer de bosser, d'être dans la compète, parce qu'on peut pas se permettre de passer à travers. On peut finir dixième. J'ai vu que si on peut finir dixième, onzième, douzième, ça arrivera peut-être pas souvent à des joueurs de finir dans ce classement-là en Ligue 1. Donc ça serait quand même une sacrée performance, surtout dans un club comme Brest.
45 points en tout cas au compteur, et 12e, hein, c'est ça pour l'instant. Les
11e.
11e.
11e, ils 11e. Ont doublé Montpellier.
5 points derrière Nantes.
Ouais, c'est ça, et avec en plus une différence de but qui est moins bonne. C'est presque 6 points d'avance pour Nantes qui a plus 7 de différence de but.
Ça va être compliqué, même si Nantes va sans doute lâcher la pédale dans les prochaines semaines avec la finale de la Coupe de France.
Hein, ouais. Il y a Lens-Nantes lors de la prochaine journée, et il y aura un entraîne aussi en match en retard 4 jours après la finale. Donc oui, c'est vrai que le calendrier...
Ils finiront par Lyon et Saint-Etienne, les Nantais. Déplacement à Lyon, réception de Saint-Etienne.
Oui, donc bon, il y a peut-être moyen de gratter quelque chose pour Brest, qui jouera des clubs qui ont tous quelque chose à jouer normalement dans cette fin de saison. Réception de Clermont dimanche à 15h à Le Blé. Réception de Strasbourg qui joue l'Europe le 8 mai. Déplacement à Monaco le 14. Monaco tout proche de la Ligue des Champions grâce à une superbe deuxième partie de saison. Et puis... l'enterrement peut-être des Girondins de Bordeaux, c'est terrible hein, de penser ça. Bordeaux qui s'est enfoncé plus bactère presque encore
contre
Nantes, et puis même cette semaine,
Manqué,
deux fois ils ont mené 2-0
contre
Saint-Etienne et Nantes, et oui, puis le pénalty de Briand pour revenir à 4-4, et deux minutes après il y a le 5-3,
et ils en avaient pris 6 à Bordeaux le dimanche d'avant, ils en ont pris 13 en 3 matchs
pour Bordeaux.
84
c'est...
buts encaissés, c'est un record en Ligue 1. Enfin, c'est
Bordeaux et Metz, ce sont les deux clubs qui vont descendre selon vous?
Metz oui,
alors Metz oui, je peux vous dire que ça, ils y sont, Antonio Netti, il a dit je dis depuis des semaines qu'on a encore une chance de se maintenir, mais comme on ne gagne pas un match, à un moment il faut fermer ça. Du Antonetti tout craché, mais même l'ambiance pour y être hier, moi, vraiment ça m'a frappé.
Ouais.
Résignation totale.
Metz, c'est fini.
Metz, c'est fini. Et honnêtement, je pense que
après, il y a forcément au moins un autre club qui va suivre Metz. Donc Bordeaux, Saint-Etienne.
Moi je pense que Clermont. Ça va être Bordeaux et Saint-Etienne. En fait, je pense
Clermont
que
barrage.
Ben moi je pense que ça va pas bouger. Ça va être Saint-Etienne, Bordeaux, Clermont et Saint-Etienne barragiste.
Est-ce qu'on remet un restaurant en jeu comme l'année dernière?
Et Bordeaux qui descend. Il faut attendre un peu. Alors il faut que je réfléchisse parce que j'ai pas réfléchi à la.
Allez, la semaine prochaine.
Je vois Saint-Etienne 18e.
Pour voir les trois derniers. On va voir si on réussit à trouver les trois derniers, les deux qui descendent et le barragiste.
Bon, mais c'est assez facile.
En tout cas, on met pas Lorient dedans. C'est déjà une bonne chose.
Ouais. Oui, c'est vrai. On met pas Lorient dedans, et pourtant, le match d'hier n'a pas rassuré. Celui de mercredi non plus, malgré la victoire contre Metz arrachée dans les toutes dernières secondes. Une victoire un peu en trompe-l'œil si on regarde juste le score, parce qu'on se dit que Lorient, ok, a battu Metz, a mis Metz à 10 points ce jour-là. Oui, mais les Merlus ont été en grande difficulté, et le problème c'est qu'ils n'ont pas forcément rectifié le tir hier. Et face à une équipe comme Rennes, ça s'est vu davantage au tableau d'affichage, avec 5 buts pour les Rennais. Victoire 5-0, un carton dans le derby qui se jouait quasiment à guichet fermé au Roizen Park. On réécoute bien sûr ce qu'il s'est passé dans ce derby entre Rennes et Lorient avec beaucoup de buts.
pas énormément de solutions, si ce n'est le retrait sur Santa Maria. Traoré trouvé à droite, avec Martin Terrier maintenant dans la surface de réparation, le centre fort, Dreyer qui la sert, Bourigeaud, but ! L'ouverture du score, la lourde frappe de Benjamin Bourigeaud à la 17ème minute. Dreyer avait fait l'arrêt sur le premier ballon, au premier poteau, mais la deuxième frappe, elle finit au fond, et c'est le 9ème but cette saison de Benjamin Bourigeaud. 1-0 pour le Stade Rennais. Guirassy dans la surface de réparation, retrait Terrier trouvé à l'angle de la surface avec Flavien Thé au 25 mètres maintenant, ballon par-dessus, contré par Innocent, Terrier là pour le deuxième, 2 minutes plus tard, 19ème, c'est le doublé pour le Stade Rennais, 2-0, et ouais, pris dans le dos les Merlus, le ballon contré, et à l'arrivée il y a un peu de réussite, c'est vrai, pour le Stade Rennais, mais Martin Terrier seul face à Mathieu Dreyer, et Martin Terrier double la mise déjà pour le Stade Rennais, ce qu'on redoutait. Arrive 2-0 pour Rennes. Allez, allez. Le ballon en retrait sur Baptiste Santamaria. Terrier maintenant dans le cœur du jeu, qui est venu proposer une solution. Il va écarter à gauche sur Truffert. Bourigeaud, le 1-2 entre les deux hommes. Truffert, le ballon n'est pas sorti. Le centre de Truffert en retrait vers le front Bayer. Et ce ballon capté en deux temps. On disait hein, environ, on n'a pas l'affluence exacte, mais 400 spectateurs lorientais qui sont venus de l'autre marquage. Et la tête pour le troisième but rennais. La tête pour le troisième but rennais, c'est Amari Traoré qui signe son troisième but de la saison sur ce corner. Frappé au premier poteau et la déviation de Traoré permet à Rennes de définitivement prendre le large. Cette fois, 3-0. La talonnade de Bourigeaud, c'était pour retrouver Traoré, c'était très bien vu mais très bien défendu aussi de la part des Merlus. L'Orienté en contre-attaque pour déborder, pour provoquer, pour repiquer dans l'axe, la frappe de l'Orienté, le ballon il est capté par Alenda. En retrait, c'est bien défendu de la part du latéral lorientais. La relance ensuite de Dreyer sur Enzo Lefebvre, plein axe et au sol. Et pourquoi pas lancer l'Orienté dans la profondeur. L'Orienté qui va se présenter seul. Oh, il y a une faute. Il y a une faute. C'est carton rouge, ça, monsieur l'arbitre. C'est carton rouge pour Aguerd. Ouais, il va le sortir. Il va le sortir, le rouge. Le rouge pour le défenseur rennais. Évidemment, l'Orienté qui finit seul au but. L'Orienté qui finit seul au but, qui allait sans doute marquer au moins des pieds. Alemdar qui est stoppé irrégulièrement par Naïef Aguerd et le carton rouge à la 58ème pour les défenseurs du Stade Rennais. Toujours le ballon pour les Rennais. Assignon, ouais, le contrôle orienté pour décaler à Marie Traoré. Attention dans la surface, la borde est présent. Le centre s'est dévié par la porte. La frappe de Truffert repoussée par Mathieu Dreyer et derrière Truffert qui rate le ballon. C'est toujours en possession des Rennais. La frappe lointaine. Le quatrième à 10 contre 11. Le Stade Rennais inscrit un nouveau but face au Merlu qui plie une nouvelle fois. Le score est lourd. 4-0 sur ce missile de Flavien Thé. La note est lourde, le carton est plein, les Merlus sont menés 4-0. Dans ce match, du côté Merlu, c'est l'Orienté qui va frapper ce corner de la gauche vers la droite quand on est face au but d'Alendar. Et on va avoir 5 Lorientais qui vont monter dans la surface. Le corner est joué à 2 avec Le Goff à Bergel maintenant, 25 mètres. La frappe repoussée par Alendar. Avec Mendes qui a énormément de chance sur son côté droit, il y a 4 Merlus dans la surface, le centre vers Ouattara. C'était dans le dos, ça revient sur le Moine, la frappe de le Moine. Oh, juste au-dessus, elle était magnifique cette reprise de volée. Gauchoukou est sans doute l'une des dernières attaques rennaises avec Assignon dans la surface. Le ballon en retrait pour Gaëtan Laborde et pour le cinquième. Pour le cinquième, c'est une humiliation désormais. Une humiliation désormais parce que Rennes marque 2 buts en étant en infériorité numérique. Lorient craque complètement défensivement. 5-0 pour le Stade Rennais et ce but de Gaëtan Laborde. 5-0. La messe est dite depuis longtemps, mais le score, lui, est beaucoup trop lourd.
Ouais, heureusement que les Merlus l'avaient emporté à domicile contre Metz.
Ouais, les Merlus qui ne gagnaient pas du tout leur confrontation directe sur la phase aller, c'est peut-être bien ce qui va les sauver sur la phase retour. Ouais, avec ces victoires contre Metz, Saint-Etienne, il y a eu avant, Clermont aussi. Parce que là, face au gros, bon, c'est compliqué. Puis surtout, ce match-là où Lorient était en dessous de tout. Globalement, les Merlus, je trouve, n'ont pas été agressifs, ne sont quasiment pas créés d'occasion, sont laissés piétiner même à 10 à 11 contre 10. On n'a pas senti vraiment de différence quand Rennes jouait à 10. Alors Rennes appuyait parfois peut-être un peu moins sur l'accélérateur, mais Lorient n'appuyait pas non plus. Donc non, on a vu une équipe qui est passée à côté.
Il n'y a pas eu de réaction parce que très rapidement les Merlus ont été menés au score. Ils sont venus avec une équipe, on voyait bien, qui était assez défensive.
Ah oui.
Mais voilà, il fallait changer complètement de la façon de jouer très rapidement, puisqu'au bout de quelques minutes, il y avait déjà 2-0.
2-0, oui.
Donc, il n'y en a pas eu cette réaction.
Non, le problème dans ce match, c'est qu'il y a un premier quart d'heure qui est pas trop mal. Il y a une légère domination rennaise, mais bon, ça reste. On peut imaginer que le match va être un peu plus équilibré. Et les deux problèmes, je trouve, c'est que ce deuxième but arrive beaucoup trop vite, 2 minutes après l'ouverture du score, 2-0 au bout de 19 minutes à Rennes, faut s'accrocher. Et puis le troisième but, dès le retour des vestiaires, on se dit que bon, la deuxième mi-temps,
le scénario était pas bon non plus.
Non. Et là, au bout de 3 minutes en deuxième mi-temps, 3-0 avec ce but d'Amari Traoré, un Christophe Pélissier qui s'est arrêté furtivement en zone mixte. Alors il a répondu pendant 3 minutes 40 ou 45 en conférence de presse, mais en zone mixte, il n'a répondu qu'à une question, 33 secondes au total. Et tendez l'oreille.
Ouais, ce que je disais, c'est que ce match-là, j'avais de la colère, de la tristesse. Colère parce que c'est pas qu'on perde le match, parce que Rennes nous était supérieur, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais prendre 2 buts à 11 contre 10, ça me met en colère, parce qu'on avait expliqué que le goal average pouvait être important. Mais la tristesse, surtout par rapport au public, par rapport aux supporters. Je crois qu'on n'a pas le droit, à la fin du match, d'avoir cette désinvolture qu'on a eue. Voilà. Tout ce que je dirais, parce que je suis trop en colère, ça m'évite de dire beaucoup de choses que je regretterai par la suite.
Colère et tristesse. Ouais, il est resté 35 secondes en zone mixte.
Ceci dit, Frédéric Antonetti, le Messin, avait fait pire à Lorient mercredi. Il est resté 10 secondes. il a dit en voyant ce match, j'ai appris beaucoup de choses. Et il est parti, Antonetti. Bon, Pélissier l'a un peu imité. Il a répondu un tout petit peu plus longuement. Mais oui, très en colère. Et d'ailleurs, tous les sons qu'on va ensuite entendre seront du capitaine Laurent Abergel, parce que aucun Merlu n'a voulu s'exprimer pour les autres joueurs. Évidemment, tout le monde a quitté le stade la tête basse, tout le monde était déçu, frustré, en colère. Il y avait un peu tous ces sentiments qui s'y mêlaient, parce qu'évidemment l'humiliation était grande quand même dans un derby. C'est toujours assez marquant de vivre une telle défaite, un derby à sens unique. Et c'est surtout là-dessus que Laurent Abergel, lui, est mécontent. Écoutez-le.
Tout l'après-midi fait tâche, bien sûr, c'était un derby et on n'a pas ressenti, c'était un non-match. Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain cet après-midi, donc c'est vrai que ça fait tâche et comme je dis, il va falloir vite réagir bien à domicile parce que c'est très très important pour le maintien. C'est embêtant de voir la différence aussi grande parce que, comme je dis, dans un derby, je pense que ça doit se resserrer quand même, l'écart doit se resserrer. Et c'est dommageable, mais voilà, il faut vite réagir à domicile et montrer un autre visage, que ce soit contre Metz ou contre Rennes. Il va falloir montrer de belles valeurs et retrouver une efficacité défensive et offensive.
Ouais, c'est un peu ça, je trouve, qui est regrettable de ne pas avoir su profiter du derby. Alors Rennes, on l'a dit plusieurs fois cette saison, c'est une très belle équipe, peut-être même la plus belle du championnat dans le jeu, dans le spectacle qui est proposé. C'est très efficace aussi, mais souvent le derby, il y a de l'agressivité, on a envie de s'accrocher davantage, peut-être qu'un match classique contre Nice par exemple la semaine dernière.
Oui, mais force est de constater que ça n'est pas arrivé. Et après, c'est vrai que vous le disiez, je pense que Rennes cette saison est l'équipe qui pratique le meilleur jeu de Ligue 1, donc il fallait s'attendre à souffrir. On les avait vus récemment contre des équipes à peu près du même niveau que Rennes à l'extérieur résister, les Lorientais à Monaco, à Nice, même si à Nice ça avait craqué en toute fin de rencontre. Mais là, effectivement, ils ont pris la marée complètement. Et cette équipe de Rennes, il lui en faut pas plus pour marquer beaucoup de buts. C'est une équipe qui ne s'arrête pas de jouer. Je crois que ça fait 8 fois cette saison qu'ils marquent 4 buts ou plus.
9 fois.
9, 4 buts ou plus dans un match. C'est monstrueux. Même le PSG ne fait pas ça.
Non.
Donc c'était pas le bon adversaire et pas la bonne attitude de Lorient.
Ah, pas du tout.
Et pas le bon jour.
Voilà. On y reviendra justement sur l'attitude aussi. Mais avant cela, une deuxième page de pub dans ce magazine des déchaînés du football.
Vous écoutez Radio Bonheur à Châteaulin sur 104.0.
Radio Bonheur. Radio Bonheur, Centre-Bretagne.
Les déchaînés du football, il est 19h et presque 44 minutes. Défaite humiliante pour les Merlus ce week-end.
Ouais, un 5-0 à Rennes, des Lorientais qui étaient allés chez la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 parce que le PSG compte 76 buts. 78, pardon. Et 60. Non, 76, c'est ça. Et 75 pour les Rennais. Donc c'est une attaque
presque
autant de feu, à un but près, voilà, c'est quasi autant. Et donc, ils étaient allés au Roizen Park, les Merlus de Pélissier, avec une équipe très défensive quand même. Hein. C'était un 4-3-3, plutôt un 4-1-4-1 d'ailleurs, avec Innocent en sentinelle, avec Abergel et Monconduit qui sont à vocation défensive aussi pour entourer le Nigérian. Et puis, devant justement, on avait bien sûr Koné l'attaquant, Boigard en ailier et Lefay en autre ailier, donc qui sont aussi plutôt des joueurs d'axe globalement. Boigard qu'on peut même voir en relayeur parfois. C'était une équipe vraiment sur le papier résolument défensive.
Oui, mais on voit bien que c'est comme dans l'autre sens. C'est pas parce qu'on met plus d'attaquants qu'on marque plus de buts. Tout est une question de comportement, d'agressivité, de compacité, de solidarité. Et hier, ça a volé en éclats. Ce qui n'a pas été le cas, on le disait il y a quelques instants, d'autres matchs comme Monaco et Nice. Mais là, voilà, c'est vraiment... ils n'ont pas été au niveau de l'événement. Et on espère pour eux que c'est juste un accident. Parce que ça peut être une sorte de tournant négatif dans cette fin de saison.
On va voir évidemment quelles seront les conséquences. Mais avant cela, le plan de jeu, lui, a volé en éclats.
L'idée oui, c'était de tenir le plus longtemps possible. Et l'idée, c'était aussi d'avoir la maîtrise, avoir plus de maîtrise du ballon avec des joueurs avec des capacités techniques sur le terrain. Donc voilà, on a su rien faire, je trouve, cet après-midi. Donc c'est dur après de respecter exactement ce qu'on voulait faire du début dans les duels, dans les surfaces. On n'a pas été bon, donc c'est très compliqué.
On n'a su rien faire.
Ouais, voilà, c'est
terrible.
Résumé en une phrase par le capitaine Laurent Abergel lui-même. Ils n'ont su rien faire, ils ont été en dessous de tout, ils n'ont jamais existé vraiment, hormis peut-être, on le disait, le premier quart d'heure qui était... Voilà, un peu moins déséquilibré que le reste du match, mais encore, ça reste pas non plus une entame de match extraordinaire. Et là où la défaite devient humiliante, c'est évidemment par l'ampleur du score, mais surtout par le fait de concéder deux buts alors que les Merlus sont à 11 contre 10. La dernière demi-heure, pendant une demi-heure, Rennes est à 10. La différence se voit à peine, voire pas du tout, et au contraire ce sont les Rennais qui marquent encore deux buts de plus, et c'est là vraiment que les Merlus étaient vexés hein, sur la quand on les a vus passer en conférence en zone mixte. Pélissier l'a dit d'ailleurs dans sa courte réaction, c'est le fait de concéder ces deux buts-là qui fait très mal aux Lorientais. On serait resté à 3-0, on aurait dit bon, Lorient n'a pas réussi à revenir dans le match. Rennes s'est montré plutôt solide, à gérer son avance. Point. Là, l'avance s'est amplifiée, a presque doublé, alors que Rennes avait un joueur de moins. Et Laurent Abergel revient aussi sur cette vexation totale.
Bah, après, c'est des paires de balles ou des seconds ballons pas gagnés, donc c'est vrai que c'est toujours embêtant et c'est normal qu'ils soient en colère. Nous aussi, on est en colère. On aurait aimé au moins arrêter ce score au moins à 3-0. Ça aurait été déjà dur, mais ça aurait été mieux.
Et maintenant, les conséquences de cette défaite. Alors, elles sont pas immédiates dans le sens où Saint-Etienne, Bordeaux et Metz, les trois derniers, ont aussi perdu ce week-end. Troyes derrière a perdu aussi. Clermont a pris un point, mais c'était contre Angers qui est juste au-dessus. Donc finalement, pas grand monde n'a avancé. Le premier point bien négatif, c'est évidemment la différence de but des Merlus qui passe à moins 24. Les quatre derniers ont une différence pire que cela, mais bon, c'est quand même pas...
Je crois que c'est par rapport à 3 qui s'est
c'est 3 qui est le meilleur. Moins 17 et Lorient moins 24. Donc, d'un point de vue différence de but, déjà, ça c'est le premier point vraiment négatif. Le deuxième, on l'évoquait il y a un instant, Pierre, c'est de savoir est-ce que ce match, on va vite passer à autre chose côté Merlu, rebondir contre Reims et ça va avancer, ou est-ce qu'il va laisser des traces plus conséquentes ?
Ce qui est dommage, c'est que ce match ne soit pas intervenu il y a 4 jours ou il y a une semaine. Parce que généralement, quand vous avez une défaite comme ça, personnellement, je trouve que c'est mieux de rejouer 3 ou 4 jours après. Ça, on bascule vite sur autre chose. Là, il y a toute la semaine qui va se passer. Il va falloir se remobiliser parce que, alors, c'est pas une catastrophe absolue non plus. Ça peut rester qu'un épiphénomène.
Peut-être.
Mais aux Lorientais, de construire leur semaine pour bien aborder ce match contre Reims la semaine prochaine.
Qui est quasiment sauvé. Reims qui, au pire des cas, finira 18e puisque mathématiquement, ils ne peuvent plus finir plus bas. Donc bon, on peut considérer que Reims est quand même sauvé avec ses 40 points. Je pense qu'avec leurs 40 points, les Rémois ne devraient plus être inquiétés. Mais côté de Lorient...
On devra quand même les revoir plus conquérants. On se souvient de la première période contre Metz. Je pense qu'ils auront besoin, dans le premier quart d'heure, d'amener le public avec eux. Même l'entame de match contre Saint-Etienne a été ratée. Alors, ils se sont bien repris ensuite, ouais, mais ça arrivera
c'est ça,
pas tout le temps.
On l'a dit, les concédés des buts, ils n'arriveront pas à renverser les situations tout le temps, les Merlus. Ça l'a fait contre Saint-Etienne, mais qui est en grande difficulté aussi. À Rennes, beaucoup moins. Contre Metz, c'était passé ric-rac, et l'ascenseur émotionnel du côté de Lorient, il est aussi assez important. Hein. On a vu justement, on parlait du match contre Saint-Etienne, où à bout de 20 minutes, on se dit, ouf, ça va être très compliqué. Finalement, il y a pluie de buts et la victoire 6-2. Contre Metz, le match n'est pas bon, mais il y a la victoire. À Rennes, c'est la gifle. L'ascenseur émotionnel à vivre n'est pas évident pour Laurent Abergel et ses partenaires.
Ouais, c'est ça, on le dit. Moi, je le dis souvent. C'est un week-end, on peut être très content. On pense que c'est ça va le faire. Et là, on peut se mettre vite dans le dos. Donc voilà, il faut bien se lever les mauvaises idées de la tête et repartir du bon pied cette semaine avec un gros match à domicile.
Il reste 4 matchs et il y aura encore besoin de points hein, pour Lorient.
Ouais, on peut estimer que bon, il n'y aura peut-être pas besoin des 42 points cette année parce que ça avance assez faiblement derrière, mais il faut quand même essayer de viser la barre des 40 points. 40 points, ça veut dire encore 2 victoires pour les Merlus qui reçoivent donc Reims le week-end prochain, qui recevront dans la foulée encore l'Olympique de Marseille, donc là, gros match également. Et puis ensuite, ce sera 2 concurrents au maintien, déplacement à Bordeaux et réception de 3 lors de la dernière
Ça pourrait jouer dans les 2 dernières journées.
Ça pourrait jouer là.
Pour Lorient, si ça se goupille mal dans les 2 prochains matchs.
Oui.
Attention aux 2 derniers matchs qui pourraient avoir un enjeu extrêmement fort.
Ah ouais, tout à fait. Bon, ce qui est bien dans le Lorient-Reims, bon, ce qui arrive, c'est que Reims arrive avec sans doute moins de pression maintenant.
Il y a quand même un peu d'avance aussi sur les poursuivants qui vont aussi très mal, sans doute même encore plus mal que Lorient.
Voilà, c'est statu quo par rapport à mercredi soir et la victoire contre Metz. Lorient a 10 points d'avance sur le dernier Metz. Il en reste 12 à prendre. Hein. Donc bon, Metz, normalement, ne devrait plus inquiéter Lorient. 7 longueurs d'avance sur le 19e Bordeaux, mais seulement 3 sur l'AS Saint-Etienne qui est 18e. Donc c'est encore très serré par rapport à cela. Et bon, on parlait de Reims, ce qui va arriver sans trop de pression maintenant, mais ça va surtout être à Lorient de produire beaucoup plus si Lorient veut se sauver.
On est optimiste parmi les déchaînés. Aucun des déchaînés ne donne les Merlus en Ligue 2
vous
la saison
pas
prochaine.
Non, mais le calendrier. Dominique.
Mais je pense honnêtement que les Merlus devraient y échapper, même à la 18e place cette saison.
On l'espère pour eux évidemment, et pour cela, on vous disait, il faudra en faire beaucoup plus, et notamment donc contre Reims, battu hier soir par Marseille. Petite page de pub.
Oui.
Et on revient ensuite pour le national. On aura avec nous Tristan Boubaya, milieu de terrain de l'US Concarneau. Concarneau qui a remporté le derby face à Saint-Brieuc vendredi soir. Et Concarneau qui s'est enfin relancé aussi dans la course à la montée cette fois.
L'été arrive. Il est temps de reprendre votre routine d'entraînement. Retrouvez le rythme avec Basic Fit. Entraînez-vous où et quand vous voulez, à partir de 19,99€ par 4 semaines. Basic Fit, go for it! Lancez-vous! Conditions sur basic-fit.fr.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
C'est l'époque qui veut ça, on veut tout, tout de suite. Mais pour faire une bonne viande de bœuf Label Rouge, pas question de la jouer en accéléré. Les bêtes, il faut leur laisser le temps de brouter l'herbe des prés, au grand air, année après année, dans des fermes familiales. Et pour la viande, bah c'est pareil. 10 jours de maturation lente, minimum. Et là, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse ?
Non, non, prof de yoga. Mais je regarde ce que je mets dans mon assiette, pas vous ?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous cette copine qui nous dit
« Enfin la saison !»
Car les fraises arrivent dès demain chez Aldi à 3,39€ le plateau de 1 kg. Oui, ce fameux « Enfin la saison !» qui vous permettrait de finir le repas sur une touche de douceur et de fraîcheur. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Origine Espagne, offre valable du mardi 26 au samedi 30 avril, info sur aldi.fr.
Dans ce temps en Blablacar.
Allez, vous angoissez pas comme ça.
Non mais je lui ai fait peur avec mes sentiments là, c'est sûr.
Bon, relisez-moi votre texto déjà.
Juliette, depuis...
Entre Saint-Etienne et Fréjus, Camille, conductrice Blablacar, va sauver une histoire d'amour et limiter un peu le CO2. Si elle pensait juste récupérer 60 euros, c'est raté. Et pour votre premier trajet, recevez jusqu'à 40 euros d'essence. Des frais en moins et bien plus que ça.
Blablacar, Blablacar.
Récupérez jusqu'à 60 euros pour 3 passagers, recevez 25 euros de carte essence avec Blablacar et 15 euros d'essence avec Blablacar Daily. Conditions sur blablacar.fr et blablacardaily.com.
Abri Sud.
Quel bonheur plein Sud.
Ouais, Claire, j'avoue, j'ai eu le coup de cœur. Il est beau, discret. Avec les enfants, on se sent beaucoup plus en sécurité.
Coucou, amour.
Tu parlais de moi, là ?
Bah non, de notre volet de piscine Abri Sud. Oh, t'es jaloux ?
Abri Sud.
Quel bonheur plein Sud.
Chute de cheveux, manque de volume, cheveux fragilisés ? Adopté par 9 femmes sur 10 l'ayant essayé, Mana et Cap Expert associent levure de bière, kératine et collagène pour la beauté et la santé de vos cheveux. Retrouvez Mana et Cap Expert en pharmacie. Manae, une marque VitaVea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Le meilleur parmesan, il vient d'Italie. Les canapés poltronnés sofa, aussi. Et ce sont les meilleurs. Et en parlant de qualité, venez découvrir la collection Finesse. Comme le canapé lit Pranello à 689 euros.
Poltrone sofa, autentica qualità. Et voilà.
Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin.
Mano Mano.
Pour les pros, le bon réflexe pour vos travaux, c'est Mano Mano Pro. Parce que quand on est pro, on aimerait faire autre chose que parcourir les rayons pour trouver son matériel. Et vu le temps perdu, on aimerait vraiment que quelqu'un le fasse à notre place. Sur Mano Mano Pro, c'est toute une équipe d'experts disponibles pour vous guider dans vos achats 7 jours sur 7. Et oui, même le dimanche. Ça, c'est du travail de pro. Alors à tous les pros, rendez-vous en ligne ou sur l'appli Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro, on bosse pour vous.
C'est le magazine des déchaînés du football. On est ensemble jusqu'à 20h30 et après avoir parlé des clubs pro, après avoir parlé de Brest et de Lorient, on parle des clubs presque pro.
Ils vont peut-être le devenir d'ailleurs, les Concarnois, parce qu'ils jouent la montée en Ligue 2, hein, nos amis Tonniers, qui sont quatrièmes du championnat de National, qui se sont relancés vendredi soir en remportant le derby breton sur la pelouse de Saint-Brieuc. Succès 3-1 avec un doublé de Fedel Koumisti, un but de Georges Gopé-Fenepège, alors qu'Emeric Gomis avait égalisé pour les Griffons en première période. Pour revenir sur ce succès, avec nous, le milieu de terrain Concarnois, Tristan Boubaya. Bonsoir Tristan.
Bonsoir.
Alors deux mois plus tard, vous retrouvez la victoire. Il y a eu une série de 8 matchs sans succès, une seule défaite, mais 7 matchs nuls. Le derby à Saint-Brieuc vous a permis de vous relancer. Quel est le sentiment après ce retour de la victoire ?
Cette victoire est importante parce que devant ils avaient gagné. Du coup, on avait l'obligation de gagner, sachant que ça fait deux mois qu'on n'avait pas eu le goût de la victoire, et en plus sur un derby, c'est parfait quoi, c'est une soirée parfaite.
Et comment vous avez vécu ces 8 matchs justement sans succès? Alors, il n'y avait pas beaucoup de défaites, ça c'était plutôt rassurant, mais on avait vu notamment des matchs nuls concédés en fin de match contre Laval, contre Sedan aussi. Comment vous avez vécu ces 8 matchs-là?
C'était compliqué parce que on faisait des matchs vraiment corrects où on était bon dans le jeu, mais voilà, on n'avait pas les 3 points. Souvent on menait au score et on se faisait rattraper, donc forcément à la fin du match on était déçus. Après on a fait des matchs nuls donc, contre des grosses équipes, donc après il y a eu des matchs nuls intéressants pour le classement. Après c'est sûr que derrière c'est revenu et du coup on a baissé au classement, donc c'était compliqué quand même.
D'ailleurs, si on regarde les autres clubs qui jouent la montée, Laval, Annecy, Villefranche, Châteauroux, Bourg-en-Bresse, tous ont eu un coup d'arrêt à un moment donné, ont eu une période comme ça, alors plus ou moins longue, mais d'au moins 5-6 matchs sans victoire ou avec de moins bons résultats. Pour vous, à Concarneau, à quoi est due justement cette période-là de moins bien?
Après, je pense que déjà, mais il y a Antoine Rabillard qui s'est blessé juste avant cette période, donc il nous manque devant. Après, forcément, on a un effectif plus restreint, donc chaque joueur joue beaucoup, donc à un moment donné, peut-être que physiquement, on lâche un peu. Après, on a forcément, il y a peut-être que penser à la montée, ça nous a fait des jeux parfois. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte.
Et justement, il y a malgré tout, bon, c'est vrai, vous avez chuté du podium, mais vous êtes à un petit point de Villefranche qui est troisième. Vos prochains adversaires, ce sont Boulogne, Chambly de relégable et le Red Star qui est sauvé dans ce championnat. Est-ce que vous avez encore l'espoir de terminer dans les deux premiers carrément pour monter directement en Ligue 2?
Deux premiers, c'est sûr que si on veut être dans les deux premiers, il faut faire un sans faute. Après tout est jouable. On voit que y a des résultats qu'on peut pas imaginer. Le Red Star qui va Bourg-en-Bresse chez eux, ça vous pouvez pas l'imaginer. On voit qu'il y a des équipes qui jouent encore le jeu, donc forcément c'est pas des matchs gagnés d'office quoi.
Ouais, c'est vrai, on voit. Là, Laval est en train de mener contre Boulogne à but à zéro, mais on voit que ça s'accroche aussi dans le bas de tableau pour sauver sa peau. Chambly qui a encore d'ailleurs un petit coup à jouer. Si jamais on devait se contenter de la troisième place, on voit que c'est Villefranche qui est actuellement là. Châteauroux n'est pas trop loin derrière vous, il y a quand même 4 points. C'est Villefranche le principal concurrent à la troisième place ou vous voyez peut-être plutôt un autre club venir jouer les troubles fêtes?
Villefranche, c'est si eux ils font un sans faute, ils vont en troisième. Après là ils jouent Châteauroux, donc c'est un peu une finale pour les deux. Après nous on n'a pas trop de concurrents directs, mais bon faut quand même prendre des points. Après je pense que si on prend les 9 points on sera barragiste, mais ça va être 9 points, ça va être compliqué, mais bon on va essayer de le faire.
Ouais, Villefranche qui joue contre Châteauroux en effet, et qui jouera aussi contre Bourg-en-Bresse sur le dernier match.
Ouais, exactement.
De la saison, c'est peut-être là aussi les confrontations directes, comme vous n'en avez plus, peut-être que les adversaires qui vont s'affronter, ça peut vous arranger, vous donner un petit coup de pouce aussi.
Clairement, de toute façon, nous quand on regarde notre calendrier et leur calendrier, ça veut pas dire que c'était facile, mais forcément on se dit qu'eux ils vont peut-être lâcher des points, sachant qu'au golavarage particulier avec toutes les équipes de devant, on est devant, parce qu'on a contre toutes les équipes, les 6 premiers, je crois, au niveau des points, on est devant tout le monde. Donc, vu que c'est vraiment particulier, donc sur l'égalité, on sera quand même devant, quoi.
Ouais, c'est un vrai avantage, ça aussi, d'avoir remporté évidemment ces confrontations directes dans le haut du tableau. Le titre de champion, Tristan, dernière question, vous le voyez pour Laval, là, qui semble prendre le large?
S'il gagne, de toute façon, s'il gagne, après ça va jouer avec, je pense, Annecy. Après, parce que là, ils vont à Chambly, je crois, le prochain match. Donc, s'il gagne ce soir, je pense qu'ils font un grand pas vers le titre. Après, ce sera pas fait aussi,
Eh bien, merci beaucoup, Tristan Boubaya, d'être venu nous parler un peu de l'actualité des Concarnois que l'on va suivre de très près jusqu'à la fin de la saison dans cette course à l'accession. Merci Tristan, bonsoir.
Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.
Bonsoir.
Bon, un petit mot sur Saint-Brieuc qui de toute façon est assuré quand même du maintien malgré sa défaite. Hein. Saint-Brieuc oui. qui fait un parcours quand même assez exceptionnel dans ce début d'année 2022.
Saint-Brieuc qui, alors c'est pas encore sûr, mais qui pourrait en tout cas terminer dans la première partie de tableau. Hein. 7ème place pour l'instant avec 45 points pour les Griffons. On l'a dit, cette défaite contre Concarneau 3-1. Les trois prochains matchs, c'est déplacement à Avranches, déplacement à Boulogne et réception du Mans pour terminer.
Finir, ouais.
Donc voilà, ça laisse une fin de saison plutôt sympa avec ce petit défi d'aller chercher la première partie de tableau. Ils y sont pour l'instant, faut maintenant y rester.
Vous écoutez Radio Bonheur au carillon de Radio Bonheur et sur les montres qui marchent, il est 20h. Et si on veut vraiment être précis, il est 20h02, c'est l'heure des infos, bonsoir.
Avec bonsoir à tous. En deux semaines après que la candidate LR a lancé un appel pour récolter 7 millions d'euros, Valérie Pécresse en a déjà reçu 2. Nous sommes encore loin du compte, c'est ce qu'elle reconnaît, relançant son appel à la générosité pour le pluralisme et la démocratie. La présidente de la région Île-de-France n'a pas atteint au premier tour le seuil de 5% des suffrages qui permet d'être remboursée de ses frais de campagne, à l'exception de 800 000 euros. Près de 9 ans après l'accident, le procès de l'une des pires catastrophes ferroviaires survenues en France s'est ouvert ce lundi dans l'après-midi devant le tribunal d'Évry qui jugera pendant 8 semaines la Société Nationale SNCF, SNCF Réseau et un cadre. Le 12 juillet 2013, le déraillement d'un train intercité en gare de Brétigny-sur-Orge en Essonne avait fait 7 morts et plus de 400 blessés. Il est évident qu'avec une catastrophe pareille, c'est un procès important pour la SNCF. C'est ce qu'a notamment déclaré Emmanuel Marcini, conseil de la Société Nationale SNCF, en amont de cette audience. Elle avait soufflé ses 118 bougies à Toulon en février dernier. La Française Sœur André, jusqu'à présent doyenne des Européens, devrait devenir la nouvelle doyenne de l'humanité à la suite du décès de la Japonaise Kane Tanaka, qui était âgée de 119 ans. Si Sœur André n'est pour l'instant que pressentie pour devenir la nouvelle doyenne de l'humanité, c'est parce que le Guinness des records doit encore mener des investigations, selon un communiqué diffusé ce lundi. La Russie a annoncé son intention de cesser les hostilités ce lundi pour permettre l'évacuation des civils terrés avec des combattants ukrainiens dans le complexe métallurgique assiégé d'Azovstal à Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine. Mais selon Kiev, aucun accord n'aurait été conclu. Les forces russes et leurs supplétifs ukrainiens pro-russes s'engagent à cesser unilatéralement les hostilités à 14h heure de Moscou, retirer les unités à une distance sûre et assurer le départ des civils dans la direction de leur choix. C'est ce qu'a donc déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué précisant que les catégories de personnes autorisées à sortir sont les femmes, les enfants et le personnel de l'usine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle fin de journée à tous.
Vos activités sur Radio Bonheur.
L'Office des retraités de Brest organise une flânerie à Brest le vendredi 29 avril pour découvrir Kerbonne et les quatre moulins. Rendez-vous à 14h30, vendredi 29, devant l'entrée de la mairie des quatre moulins. Arrêt de bus Coismao-Préto, ligne 2. Tarif 3 euros pour les adhérents, 5 euros pour les non-adhérents. Renseignements et inscriptions au 02 98 80 30 03 auprès de l'Office des retraités de Brest. Le Rostronin Football Club organise prochainement, le samedi 7 mai, une soirée aux couleurs créoles avec un repas servi à table autour d'une piste de danse. Repas avec des spécialités créoles. Le tarif pour les adultes est fixé à 14 euros pour la soirée avec le repas et la soirée dansante, 7 euros pour les enfants. Renseignements et réservations jusqu'au 29 avril sur le site rostroninfc.fr. Cette soirée se déroulera le samedi 7 mai à la salle des fêtes de Rostronin à partir de 19h. Dans le Finistère, pour diffuser vos activités, vos annonces associatives, contactez Radio Bonheur au 02 96 63 00 63. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 18h. 02 96 63 00 63.
Radio Bonheur.
We'll be right back. C'est la dernière demi-heure du magazine des déchaînés du football. Et dans cette dernière demi-heure, jusqu'à 20h30, comme à chaque fois, nous parlons des Guingampais. Les Guingampais qui s'en sont bien sortis de ce match piège où ils étaient menés 3-0 à la pause.
Oui, et on va faire vite parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ce match. Je peux vous dire, on avait 10 minutes d'action à condenser pour le résumé. Normalement, on a 3 ou 4 minutes. On a condensé en un peu moins, mais écoutez donc le long résumé de ce Dijon-Guingamp parce qu'il y a eu les buts, mais aussi beaucoup d'autres choses dans ce match complètement renversant. De Dobré, ballon mal sorti par Sivis, Schedler qui dévie pour un premier ballon dans la surface, entre en retrait, c'était dangereux, et c'est même but, et c'est même but d'Aurélien Schedler après une minute pile. Sur Souleymane Diarra, Diarra pour Mouyumba, position de frappe peut-être, Pierrot maintenant, Pierrot qui arrive face au but, qui frappe, c'est contré, grosse occasion pour Guingamp. Sivis qui est passé, Sivis qui centre, Pierrot avec Gomis, frappe de Gomis, contré, ça sera corner. 27e minute, corner pour Dijon, frappé par Jacob, ça part plutôt bien, tête et deuxième but, c'est Dobré qui marque celui-là, c'est simple football, deux occasions, deux buts pour Dijon, tout le reste est guingampé, zéro but, deux buts d'avance pour les Dijonais.
À zéro,
bien joué la passe
Dauphin.
De Merguem pour Livolan, frappe de Livolan à côté, énorme occasion pour Guingamp, c'est incroyable. A décalé Merguem qui sent du droit, tête décollé Manga sur Mouyumba, frappe au-dessus. Quelle occasion encore, on n'arrive pas à toucher le cadre les enfants. C'est un miracle quand même que Dijon n'ait pas pris de but dans cette première période, mais c'est dû à la maladresse totale des Guingampais pour l'instant. Il n'est pas fini ce match, je vous assure qu'il n'est pas fini. Quelle maladresse des Guingampais aujourd'hui face au but de René. Diarra, ouais, pas de faute sur le Guillaume, ça joue. Bon, il y a quand même un gros temps pour aller. Gomis pour Pierrot, Pierrot pour Mouyumba. Allez, un bon coup à jouer encore pour Mouyumba qui va s'enfoncer et décaler Merguem. Est-ce que c'est enfin le bon coup? Oui, dans la barre! C'est pas possible! Mais c'est pas possible! Les enfants, on va démissionner du football ce soir! Et le ballon passe pour Dijon avec Philippe Otto. Philippe Otto pour Schedler, remise de la poitrine. Philippe Otto par-dessus pour Guillaume, intervention acrobatique de Lemonnier. Frappe ensuite, troisième but de Dobré! Incroyable! Et ouais, qui allait plus fort.
Vous y croyez encore?
Hein. Ah bah il y a eu tellement d'occasions en première période. Si on est efficace, allez, si on convertit 20 ou 30% des occasions qu'on a eues en première période, on revient à 3-3. Mais moi, là où je suis le plus inquiet, c'est derrière. Si on continue comme ça, on va en prendre 5. Sur le côté, Merguem pour Livolan, c'est bien joué là ce mouvement guingampé, Livolan qui rend sur Merguem, centre de Merguem, pied droit, Gomis qui arrive, Sivis qui marque, voilà le but guingampé enfin. C'était le très important de marquer très vite en seconde période pour croire en un scénario irréel, les guingampés l'ont fait, Sivis l'a fait, 3 buts 1.
Allez, la remontada.
Schedler face au mur, je sens pas ce coup franc. Schedler, c'est parti, barre, hop 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 hop, tête de Ryu qui redonne à Basilio avec beaucoup de maîtrise.
On n'est pas assez loin du 4.
Pour nous, ça équilibre un peu la réussite. C'est peut-être un message envoyé au Guingampais. Gama pour le corner, second poteau, René n'est pas là, frappe de Gomis, oh là 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 là, quelle occasion encore, Gomis qui a redressé second poteau, la reprise de volée, Sivis qui était à deux crampons de pousser le ballon au fond des filets, et ça y est, on est reparti dans une phase où il y a une occasion par minute pour Guingamp, mais on ne marque toujours pas. Ça pour le contre avec Jacob, quel mauvais contrôle de balle, ils sont à la rue les Dijonais. Mouyumba qui va peut-être décaler Kathleen sur le côté, non, Mouyumba qui va tout seul, oh il y a une faute et pénalty pour Guingamp sur cette percussion de Tristan Mouyumba, et là c'est véritablement le tournant de la fin du match. Sangama face à Baptiste Renel et Panélan du capitaine. C'est parti, c'est but. Oh, je ne sais pas par où elle est passée, mais voilà peut-être encore un signe que la chance a tourné pour les Guingampais. Sangama ramène le score à 3-2 et tous les rêves sont de nouveau possibles dans cette seconde période. Il la remet vers la boîte, attention Schneider, il est tout seul, contrôle, frappe, bas. Combien de temps additionnel? 4 minutes. 4 minutes de bonheur en plus de ce match. 4 minutes d'espoir pour Guingamp. Le corner de Youssouf Mchangama. Ouais, c'est tiré en retrait sur Muyumba. Frappe de Muyumba. C'est but! C'est but de Tristan Muyumba. 93e minute, les enfants. Le corner de Filou de Mchangama en retrait pour Muyumba et Guingamp qui refait encore le coup à Dijon. Comme en 2009, comme en 2016. Match aller, Guingamp reprend un net désavantage à Dijon, 3 partout, but de Muyumba, mais c'est tellement mérité! C'est terminé! Bravo messieurs les Guingampais, parce que franchement, votre première période était désastreuse dans l'efficacité, mais jamais Guingamp n'a perdu le fil de son match. Ils ont continué de jouer avec leur idée de jeu, avec leur identité, et ils sont revenus en construisant leur seconde période pour revenir à 3 partout. Guingamp ne méritait pas de perdre ce match.
Incroyable scénario quand même, 3-0 à la pause à la mi-temps, oui. Et Guingamp qui revient à 3-3 avant la fin de la rencontre. Quel scénario!
Oui, et encore, on ne l'entendra pas ce soir, mais Patrice Garande, l'entraîneur de Dijon, a dit après la rencontre en conférence de presse que s'il y avait encore eu 5 minutes dans ce match, Guingamp aurait pu le gagner 4-3. C'est vrai qu'il y avait cette impression folle que Guingamp marchait sur Dijon en seconde période. Mais il y a eu la première période qui n'a pas été mauvaise dans le contenu de la part de Guingamp, malgré ce score de 3-0, mais Guingamp qui a été un peu pris à son propre piège. C'est-à-dire que le jeu a sauvé Guingamp, parce que c'est en jouant, en continuant avec ses idées que Guingamp a arraché le nul 3 partout, mais c'est aussi en jouant que Guingamp a commis des erreurs et Guingamp était trop joueur. Écoutez à ce sujet Enzo Basilio, le gardien.
On fait beaucoup d'erreurs donc, et on les paye cash. On peut faire des erreurs sans forcément les payer cash. Aujourd'hui, sur un match comme ça, on les a payés cash presque à chaque fois qu'ils sont venus dans la surface. Ils ont deux montants en plus en seconde mi-temps. Alors, le mieux pour pas prendre de but, c'est d'éviter de gommer des erreurs. Mais bon, en jouant au foot, on s'expose à faire des erreurs. Et notre jeu, en plus, fait en sorte qu'on s'expose à faire des erreurs. Donc, mais il faut essayer d'en faire le moins possible pour pouvoir gagner ce genre de match.
On pense notamment au premier but, au bout d'une minute, où Guingamp a le ballon à son poteau de corner et Maxime Civis, après le match, il a appelé des coupables un peu. Il a dit bon, j'étais peut-être pas assez concentré, il a peut-être pas assez soigné sa remise. Il rend tout de suite le ballon au Dijonais aux 20 mètres et 4 secondes plus tard, il y a le 1-0. Voilà, c'est le danger qui guette un peu les Guingampais dans cette fin de saison, qui nous donne beaucoup de plaisir hein, quand même depuis quelques semaines. Qui joue, c'est très agréable, ils ressortent de derrière.
Je crois que c'est sur les 6 ou 7 derniers matchs, il y a au moins 2 buts marqués à chaque fois, 2 ou 3. Depuis le match de Nancy, je crois. Ouais, c'est ça, depuis le match de Nancy, il y a soit 3 buts, soit 2 à chaque fois pour Guingamp.
Ouais, c'est très intéressant pour l'équipe de Stéphane Dumont, qui n'en menait pas large à la pause. Question posée à tous les joueurs qui sont passés avec nous en zone mixte après la rencontre. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez retrouver cette zone mixte dans les conditions du direct sur notre page Facebook Les Déchaînés du Football Guingamp. Vous avez en plus les images pour couronner le tout. Mais là, on a posé la même question à Enzo Basilio, Maxime Civis et Youssouf Mchangama. Que s'est-il dit? Que s'est-il passé à la mi-temps? Voici les trois d'un coup.
Très honnêtement, quand on voit la première mi-temps, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. C'est ce qu'on se dit à la mi-temps. Il y a la place de revenir. On sentait pas parce qu'on est par nos forces, on savait qu'on pouvait revenir.
À la mi-temps, on s'est un peu fait bouger par le coach, mais tout le monde y croyait. Tout le monde y croyait. On savait que si on marquait rapidement en deuxième mi-temps, il y avait moyen d'acheter quelque chose. On l'a fait à l'aller. On sait qu'on est une équipe avec un gros mental sur tous ces derniers temps.
On s'est fait un peu bouger à la mi-temps. On s'est rarement fait bouger comme ça. Avec des mots assez durs. Je laisserai le coach les dire s'il a envie de les dire.
Alors, est-ce qu'il les a dit, ces mots assez durs? Ça paraît pas être un peu dans le personnage de Stéphane Dumont. On a tenté d'en savoir plus Écoutez ce que Dumont nous a raconté sur la mi-temps.
Non, pas du, non, pas abattu. Par contre, conscient de ce qu'il faisait de bien, mais surtout de ce qu'il nous manquait. Voilà, on s'est parlé, je leur ai dit les choses calmement, un peu plus véhément aussi, et leur faire comprendre qu'on allait revenir voilà, étape par étape, en mettant certains ingrédients sine qua non à une performance, et en continuant à accentuer sur certains domaines. Et le score à la mi-temps, malgré tout, était assez sévère.
Oui, c'était très sévère. Alors, moi, je veux savoir, Gaëtan, votre impression à la mi-temps. Je le connais, ce que vous me l'avez dit, ouais. Mais quelle était votre impression à 3-0 pour Dijon?
Alors, je vais revenir même un peu avant. À 2-0, j'étais assez confiant. Je dis, bon, je pense que Guingamp va revenir. Parce que je trouve que Guingamp était meilleur dans ce qu'il produisait globalement. Alors oui, il y avait eu ses deux buts, il y avait eu des erreurs, mais... globalement je trouve que Guingamp faisait meilleure impression que Dijon. À 3-0 par contre, là j'avoue que j'étais moins confiant. Je voyais pas Guingamp recoller à 3-3, revenir dans le match à 3-1, à 3-2, faire douter Dijon, espérer pourquoi pas revenir à 3-3, non, je l'imaginais pas forcément. À 2-0 oui, mais à 3 non.
Eh bien, on va voir ce qui a été mieux fait en seconde période, mais juste avant cela, une dernière pause de réclame sur Radio Bonheur et on revient donc sur cette incroyable remontée guingampaise.
Tout savoir sur les écogîtes avec Gîtes de France. Pour un court séjour, Nicolas a choisi un écogîte du réseau Gîtes de France. Il nous dit pourquoi dans un instant.
Nous sommes les donneurs de sang.
Ceux qui donnent parce que c'est solidaire.
Ceux qui donnent parce que c'est pas la mer à boire.
Ceux qui chaque année participent à soigner 1 million de personnes.
Nous sommes les changeurs d'histoire.
Les joueurs collectifs, les optimistes nés.
Nous sommes les donneurs de sang.
Rejoignez-nous.
Devenez donneurs.
Devenez donneurs.
Prenez rendez-vous pour votre premier don sur le site de l'établissement français du sang.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Le bonheur, c'est quand je suis sous ma pergola Abri Sud. Grâce à elle, ma pièce préférée, c'est mon jardin. Toit ouvert ou toit fermé, je profite de la vie en extérieur toute l'année. Voilà, c'est ça mon bonheur Abri Sud.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Hey Natou, t'as vu mon nouveau portable?
Je vois surtout que t'as gardé l'ancien. Tu sais qu'il peut te rapporter gros si tu le vends sur eBay?
Ouais, mais je le garde au cas où.
Au cas où il se transforme en lingot d'or dans ton tiroir?
C'est vrai que dit comme ça...
Non mais sérieux David, il est encore nickel, zéro rayure, presque neuf. C'est sûr que tu le vends en 2-2 sur eBay.
T'as raison, ça part!
Tech, jeu, carte à collectionner, ça part sur eBay.
Chez Carglass, quand on remplace un pare-brise, on le recycle toujours. Comme ça, on évite le gaspillage. Alors, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 60 euros de lavage de votre voiture. En station wash de Total Energy. C'est moins d'eau qu'un lavage à la maison. Ça aussi, ça évite de gaspiller. 60 euros offerts, c'est sur carglass.fr et c'est jusqu'au 14 mai.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
J'en suis à ma 7e vie, donc niveau maladie, j'en connais un rayon. En revanche, pour ma maîtresse, au niveau chat, je suis son premier. J'aimerais lui dire que pour être remboursé, il y a une super solution, parce que je le sais déjà, vu que j'ai eu 6 vies. C'est Santé Bête, mais je sais pas parler.
Passez à l'assurance santé animale à partir de 15 euros pour un chat. Obtenez vite votre devis gratuit sur santévet.com.
Hé, je parle!
Voir conditions de remboursement des frais vétérinaires sur santévet.com.
Allez, les dernières minutes du magazine des déchaînés du football à 20h20, avec ce retour incroyable des Guingampais à Dijon.
Oui, Guingamp qui remonte un retard de 3 buts, ça n'était plus arrivé depuis 1988.
Ouais, le 15 octobre 88.
Contre Mulhouse. Mulhouse. Et alors, c'était un petit peu différent parce que Guingamp était mené 3-0, mais était revenu à 3-2 avant la mi-temps.
Ouais.
Dans ce match-là, on se souvient aussi que Guingamp était pas loin de le faire cette saison contre Amiens. Souvenez-vous, en Coupe France, il y avait 3-0 pour Amiens. Guingamp revient à 3-2.
À la mi-temps aussi, il y a le 3-0 d'ailleurs. Ah non, 2 à la mi-temps et puis 3 au deuxième.
Ouais. Ouais, et ils n'avaient pas été loin. Ils avaient eu les occasions pour revenir à 3 partout, les Guingampais. Mais on le disait pendant le match, on l'a réentendu dans le résumé, il y avait eu quelque chose à ne plus voir en seconde période pour tenter de remonter. Ce sont ces errances défensives, ces espaces laissés aux Dijonais en première période. Qu'est-ce qui a été mieux fait en seconde période pour que Guingamp n'encaisse plus de buts? Réponse du coach Stéphane Dumont.
Des choses plus simples dans certains domaines, de l'agressivité, dans le bon sens du terme, d'être capable de défendre en avançant sur des duels et puis surtout de gagner ce rapport de force de sur la dominante psychologique, de commencer à les faire douter, de marquer ce but qui fait que forcément le match aller, le match retour, ce genre de match où l'adversaire commence à revenir, on sent que voilà, la dynamique collective et l'empreinte collective qu'on essayait de monter sur la deuxième mi-temps, bah, elle les fragilise un peu. Et on a essayé d'appuyer sur ça.
Et puis, il y a le côté offensif, mais ça a été plutôt régulier tout au long des 95-96 minutes. C'est cette identité de jeu, Gaëtan Quelon. On voyait par bribes au début de saison, on voyait où Dumont voulait en venir. Parfois, il n'y avait peut-être pas les joueurs, pas assez travaillé. Mais là, moi, il y a une progression folle dans cette identité de jeu, ce projet. Et c'est peut-être le match qui l'a le plus récompensé. Parce que franchement, ce match a lieu il y a deux mois. Je ne suis pas sûr que Guingamp revienne à 3-3.
Non,
il y a une telle affirmation dans le jeu qu'ils sont revenus.
Et on l'a dit souvent, sur la première partie de saison notamment, qu'il fallait du temps à cette équipe pour que tout ça prenne forme aussi. C'est le cas, petit à petit. On en parlait il y a un instant en disant que ça fait, je sais plus, du coup 6 ou 7 matchs que Guingamp marque minimum 2 buts à chaque fois depuis la réception de Nancy. Cette identité, en effet, se dégage par les buts marqués, par les occasions créées, et puis tout simplement par l'impression qu'elle donne, cette équipe. Quand on regarde Dijon et Guingamp, deux équipes qui sont dans le ventre mou de Ligue 2, qui sont sauvées toutes les deux.
Et qui sont récemment reléguées de Ligue 1.
Ouais, voilà. Dijon est descendu l'année dernière, Guingamp il y a 3 ans. Bon, c'était quand même, je veux pas dire le jour et la nuit, mais il y avait une nette différence entre le jeu proposé par Guingamp et celui proposé par Dijon.
Ouais, moi c'est l'expression collective qui ressortait de l'équipe de Guingamp. Au stade peut-être plus qu'à la télé, supérieure. Je sais pas. Mais oui.
À la télé, moi j'ai eu cette impression. C'est pour ça on s'est eu au téléphone après le match, on en a discuté. Et étrangement, j'avais exactement la même impression. Pourtant, je l'ai vu que le match à la télé, mais... Ouais, je trouve que Guingamp était bien au-dessus dans le jeu. Alors à l'arrivée, il y a 3 partout parce qu'il y a des erreurs, il y a des événements dans le match. Mais je trouve que ce qu'a proposé Guingamp, c'était plaisant. Et effectivement, c'était bien
meilleur. Et ça, c'est
ce que
veut Dumont, du jeu.
Ah oui, du jeu. Et puis voilà, repartir de l'arrière, avoir la possession. Ce qui est plutôt rare dans l'histoire de Guingamp. Généralement, les meilleures équipes de Guingamp, c'était voilà, des contres, ça allait vite vers l'avant. Là, non, c'est construit de l'arrière. Il y a eu pas mal de buts ces derniers temps où il y a eu 20-25 passes sur la même action pour aboutir à un but.
L'action 18 contre Pau encore.
Oui, l'action du premier but, elle est magnifique. Hein. Le jeu à 3, Merguem, Livolant et Civis, c'était très léché. Donc voilà, on espère revoir ça samedi contre Caen, une équipe qui joue bien aussi en ce moment, ça peut être très spectaculaire. Maintenant voilà, il faudra gommer quelques erreurs pour espérer gagner et puis atteindre peut-être le top 6 en fin de saison. Voici l'avis de Dumont sur cette identité de jeu qu'il a réussi à imprégner.
Par définition, voilà, on a une identité, on sait qui on est, donc il y a des choses qu'on sait moins bien faire. Cette saison, elle va s'arrêter à un moment... bizarre parce qu'on a la sensation que sur la dynamique collective, la dominante collective, la façon de prendre le ballon et de mettre en danger l'adversaire, c'est plutôt intéressant. Sur le jeu et la façon d'élaborer, on a une identité, on la renie pas et je la renierai pas.
La sixième place, c'est ce que peut espérer Guingamp dans cette fin de championnat.
Oui, Guingamp qui, avec ce but arraché à la fin, revient à 2 points du Havre, qui a perdu de son côté contre Grenoble à domicile. Et en plus, Guingamp-Le Havre, c'est le dernier match de la saison.
Ouais.
Et ce sera à Roudourou. Donc, alors, on parlait de
la
petite
cinquième
finale
place synonyme de barrage. Elle est inatteignable.
Ah oui, hein.
C'est cuit là.
C'est mathématique.
Ça fait déjà 2 ou 3 matchs hein, que.
Oui, ça
Alors, ça fait longtemps.
Ça fait surtout 6 mois qu'on sait qu'ils n'y seront pas.
Mais ça fait 2-3 matchs que c'est maintenant officiel. Effectivement, bon, les 5 équipes de tête sont bien au-dessus du reste.
Non, mais on le disait il y a quelques semaines, quelques mois. L'objectif de cette fin de saison, c'est évidemment de terminer le plus haut possible et puis de créer un élan vers la saison prochaine. Là.
Ouais.
Il faudra voir ce qui se passe au mercato avec les pertes, les arrivées,
parce que
etc.
L'équipe sera pas la même ou pas.
C'est ça
pas,
le problème.
Pas forcément à tous les postes. Hein,
mais
c'est certain,
ça, c'est quelque chose qui doit être anticipé.
Mais ça l'est sans doute. Hein,
j'espère. Ouais.
Avec forcément quelques mouvements qui se préparent aussi, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, ça va forcément venir après. L'intérêt sera d'avoir son équipe aussi assez tôt dans le mercato.
D'ailleurs, demain, rubrique spéciale sur l'éventuelle prolongation de Youssouf M'Changama. Il y a eu une scène incroyable en zone mixte où Fred Legrand, le président lui-même, a posé la question à Youssouf M'Changama. Vous pouvez la voir sur la page Facebook des Déchaînés du Football, c'est un moment assez croustillant et on en parle demain. Vous allez entendre cette scène demain dans la rubrique des Déchaînés du Football à 8h38 et 17h38 dans la région guingampaise, et puis sinon sur le www.radiobonheur.com dans la rubrique podcast. Il est 20h26 à notre montre
qui
marche.
Sur le classement. Un petit mot sur le classement avant de se quitter peut-être.
Parce qu'on a les résultats N2, N3 qui vont venir juste après le classement. Bah, Guingamp est toujours 7ème.
Bouge pas.
Hein. Ouais, mais dans le haut du classement, Toulouse va monter.
S'il gagne aujourd'hui, c'est mathématique, ils sont en Ligue 1.
Ajaccio est bien parti parce qu'Auxerre n'a pas réussi à profiter du faux pas d'Ajaccio ce week-end.
Ouais, donc 3 points d'écart.
Il y a toujours 3 points d'écart. Bon, ça reste toujours possible pour Auxerre quand même. Hein. Même pour Sochaux et plus difficilement pour Paris. Mais il y a encore peut-être une petite fenêtre de tir pour Auxerre avant la fin du championnat. Mais on va effectivement vers Toulouse et Ajaccio en Ligue 2 la saison prochaine. Et puis des barrages ensuite entre Auxerre, Sochaux et le Paris Football Club. Dans le bas du classement, on connaît déjà l'équipe qui sera Lanterne Rouge et qui descendra, ce sera Nancy. Pour accompagner Nancy, il y a Dunkerque qui est malheureusement bien placé aussi, 3 points de retard sur QRM. Par contre, QRM, Rodez, tout ça c'est serré, ça va se jouer aussi peut-être, même avec Valenciennes qui n'est pas encore tout à fait sauvé. Mais Dunkerque et Nancy en National la saison prochaine, c'est probable.
D'ailleurs,
pour la 18e place, ça va être beaucoup plus serré entre QRM, Rodez et Valenciennes.
QRM qui a 34 points, mais probablement 37 puisqu'il menait 3-0 quand le match a été arrêté.
Oui, c'est vrai.
Il risque d'y avoir victoire quand même.
C'est plutôt Rodez là qui est 18e en fait.
Ouais, probablement Rodez avec 3 points de moins. Bon, ça reste à confirmer, mais on se dirige vers là.
National 2, National 3 pour terminer ce magazine. Pas mal de résultats très importants en N2. La victoire de Lorient B dans le derby du 56 à Vannes, 3-0. Pagis, Lebris et Bouchelarem ont marqué pour les réservistes de Lorient qui sont deuxième à 4 points de Versailles, le leader de ce championnat. Plabennec, dans la lutte terrible pour le maintien, a été sèchement battu à Rouen 3-0. La lutte pour le maintien dont Vitré et Saint-Malo vont encore devoir batailler ferme. Il y a eu 2-2 dans le derby du 35 entre deux équipes du bas de classement. Vitré qui a mené deux fois au score mais qui a été repris à chaque fois par un doublé de Papin du côté de Saint-Malo. Guingambé se rapproche plus que jamais du maintien avec sa victoire 2-0 à Châteaubriant, but de Louvambo et Balouge. Au classement, donc Versailles premier avec 4 points d'avance sur Lorient B. 6e Vannes 37 points, 10e Guingambé 32, dans le bas du classement 13e Romorantin 27 points, 14e Saint-Malo qui revient dans la zone rouge avec 27 points, 15e Plabennec 25, 16e Vitré 24. En National 3, le week-end était sous le signe du choc entre les deux leaders, la Milizac Saint-Pierre et Lannion. Match nul, un partout. Fernandez a marqué pour Milizac Saint-Pierre à la 46e. Égalisation de l'inévitable Achabar à la 71e alors que Lannion évoluait à 11 contre 10. Dans le reste des résultats, GSI Pontivy a battu Plouzané 2-1 grâce à des buts d'Eke et Le Gall. Victoire 4-0 de la Théadrenne contre le Stade Pontivien. Dans le duel des réserves, c'est Brest B qui a gagné au Stade Rennais B 3-2 grâce à des buts de Inchaud, Cabalan et Gentil. Et puis match nul aussi entre Tréguin et Dinan-Léon. Surprise puisque Tréguin est dernier de ce championnat. Match nul un partout. David 15e pour Tréguin. Jégu 60e pour les Dinanais. Puis Fougère a battu Guy Primessac 3-2 au classement. Milizac Saint-Pierre premier 39 points. Deuxième GSI Pontivy 38. Troisième Brest B 37. Quatrième Lannion 37, 5e Dinan 35, 6e Locminé et Rennes B 34, 8e et 9e Saint-Brieuc B et Fougères 33 points. La réserve de Saint-Brieuc qui a battu Locminé 3-2, c'est ultra serré. Il y a 6 points entre le 1er et le 9e de ce championnat de N3, 10e Théarennes et Stade Pontivy 24, Plouzané 21, Guy Primessac 12 et Tréguin 4.
Dommage pour Dinan quand même.
Parce que Tréguin, c'était 20 matchs, 19 défaites cette année, une victoire. Et donc ce nul, avec 2 points de plus, il serait à 2 points du leader.
Allez Dinan, on y croit encore. 20h31, on se quitte là. Prochain rendez-vous demain matin, 8h38. Et puis les prochains matchs ce week-end. 2 matchs dimanche après-midi à 15h. Lorient et Brest qui joueront dimanche 1er mai à 15h.
Lorient, Reims et Brest, Clermont.
Et les Guingampais, eux joueront
samedi soir contre Caen à Roudourous.
Comme quasiment à chaque fois le samedi soir à 19h pour les Guingampais. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Bonne soirée messieurs.
Bonsoir.